le troisième type. Voilà un peu ce qui est des types d'APC.
D'accord. Maître Benjamin Kalumba, sa question, comment se manifeste un AVC?
L'APC se manifeste de plusieurs façons. Des façons de se manifester sur le plan clinique, comment reconnaître l'AVC? L'AVC doit être évoqué dans les circonstances telles que où on a un déficit neurologique.
Comment se manifeste ce déficit neurologique?
Le déficit neurologique s'accompagne de perte de certaines fonctions. Par exemple, la fonction motrice, un patient qui marchait normalement et soudain, comme je l'ai dit dans la définition, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Et cet accident, c'est comme l'accident, on ne peut pas promettre, ça survient, ça surprend. C'est comme une personne aussi qui doit connaître ses déficits neurologiques, pas perdre de certaines fonctions, par exemple, il perd la motricité, il perd la sensibilité, certains peuvent perdre la vision, l'audition, le langage. Ces éléments sont à prendre en compte chez un patient qui était normalement bien. Et tout d'un coup, il commence à perdre le langage, il commence à balbutier, il commence à avoir des bizarreries, où il sent une paralysie, il atteint son membre, comme le commun des mortels le dit, c'est une paralysie, mais c'est nous maintenant nous avons spécifié cela. Alors ça, il s'agit sur le plan déficitaire, neurologique, sur le plan déficit neurologique. On peut avoir aussi sur le plan focal, de certaines fonctions qui correspondent directement à la lésion d'une structure anatomique cérébrale donnée. Ça veut dire que cette fois-là, vous verrez que les symptômes surviennent ou arrivent d'une façon très, très brutale. C'est là que j'ai trouvé qu'il y a le plus souvent un déficit neurologique focal qui apparaît sans prodrome ou d'emblée maximale. Vous verrez que ces symptômes peuvent toutefois s'accompagner selon qu'il s'agit d'un AVC hémorragique ou un AVC ischémique. Il faudra préciser que lorsqu'il s'agit d'un AVC tout à fait ischémique, vous trouverez les manifestations et ischémiques et hémorragiques, je voulais dire, ces symptômes peuvent perdurer. Ça veut dire ces troubles de langage, de la motricité, sensibilité, consort, peuvent perdurer. Et nous avons également une autre sorte d'AVC ischémique que je voudrais préciser. Ce type d'AVC, celui que nous appelons comme étant un accident ischémique transitoire, AIT.
Comment peut-on identifier cette sorte d'AVC?
C'est quelqu'un qui a cette paralysie, mais la durée des symptômes ne prennent que quelques heures et puis des symptômes ou les signes disparaissent. Alors pour reconnaître l'AVC, l'AVC se traduit, si je peux le résumer, par un déficit neurologique qui s'accompagne de perte des fonctions motrices, des fonctions sensitives, visuelles, auditives, ainsi que sur le plan du langage.
Ok. Salvador Mouami, Herman Germain et Aboubakar Djalabi Bachi s'intéressent aux causes des AVC.
On en a plusieurs. Il y a des causes qui sont communes et que nous pouvons retrouver dans tous les types d'AVC. Et nous avons aussi les causes qui sont spécifiques au type d'AVC donné. Je pense un peu plus rapidement. Il y a plusieurs causes et je ne saurais pas tout dire, c'est vrai, mais je prends les plus importants pour que nos auditeurs comprennent quelles sont les causes plus fréquentes, bien entendu, des AVC, comme cela, c'est un problème de santé.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Je voudrais bien premièrement commencer par l'AVC ischémique, qui est la forme la plus représentée ou la plus courante, et les causes sont multiples. Nous avons premièrement les causes que nous appelons les causes qui sont liées à ce que nous appelons l'athérosclérose ou fibrillation atriale. Là, je ne pourrais pas m'y appeler trop parce que les auditeurs peut-être ne sauront pas très appréhender cela, mais j'aurai toutefois à m'appliquer pour qu'ils comprennent. L'infarctus cérébral peut être dû à des problèmes tels que une atteinte de grosses artères. Et là, nous parlons des macro-angiopathies, une atteinte des petites artères, ce que nous appelons des micro-angiopathies. Nous avons aussi des cardiopathies embolisées. Ça veut dire un patient qui souffre d'une cardiopathie avec des emboles, ça veut dire des caillots de sang qui peuvent être circuités dans la circulation, dans la grande circulation, jusqu'à aller obstruer ou encore boucher un vaisseau cérébral et entraîner une souffrance cérébrale pour conduire à un AVC tout à fait ischémique. Nous avons également ce que nous avons un état prothrombotique. Là, c'est par rapport aux facteurs de coagulation. Donc, on peut avoir des patients qui ont le trouble de coagulation. D'une manière tout à fait génétique, qui présente des troubles de coagulation, ce genre de patients peuvent faire très facilement les AVC. Les causes métaboliques, ce sont les causes bien entendu qui sont là, et nous aurons à expliquer un peu plus loin. Toujours dans les causes d'AVC ischémique, c'est ce que nous appelons les infections des artères cervicaux affectées. Et la cause la plus fréquente des infarctus cérébraux des sujets jeunes. Donc, une infection des artères au niveau cérébral, et peut-être toutefois, cette infection peut toutefois entraîner des AVC. Et malheureusement, ce type-là, cette circonstance peut toutefois conduire à des AVC même chez les sujets qui sont tout à fait jeunes. La dissection, comme je le disais, si vous pouvez correspondre à un développement d'un hématome dans la paroi de la tête.
Ça veut dire quoi, docteur?
Ça veut dire que le sang qui ne peut pas être extériorisé va se coaguler dans la voie crânienne. Et cette coagulation peut toutefois conduire à un hématome qui comprime du cerveau et aussi conduire par la suite à un AVC qu'on appelle ischémie. Nous avons aussi des causes post-traumatiques. Un trauma crânio-encéphalique, un choc sur par accident ou un trauma crânio-encéphalique, il peut y avoir la rupture d'un vaisseau au niveau cérébral et cette rupture peut toutefois aussi entraîner l'AVC ischémique. Nous avons les AVC hémorragiques.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment une hypertension peut être aussi à la base d'un accident vasculaire cérébral?
Pour les AVC hémorragiques ou hémorragie intraparachimenteuse, là, nous avons l'hypertension chronique. L'hypertension chronique cause donc 50% des hémorragies intraparachimenteuses. L'hypertension chronique, c'est un élément important qu'il faudra retenir parmi les causes des AVC hémorragiques. C'est là que nous pouvons parler des capsulothalamiques. Nous avons l'hémorragie capsulolenticulaire, les hémorragies cérébelleuses. En fait, je ne voudrais pas m'attarder dessus parce que ça risquerait de compliquer les auditeurs pour rien. Nous avons, hormis l'hypertension chronique comme cause principale des AVC hémorragiques, nous avons aussi la rupture d'une malformation vasculaire. Cela concerne environ 10% des hémorragies intraparachimenteuses et ça touche au moins un tiers des AVC hémorragiques chez les sujets jeunes, contrairement aux précédentes causes. Alors, nous avons aussi comme cause, ça peut être la troisième cause des hémorragies, des AVC hémorragiques. Nous avons une catégorie de patients qui présentent, par exemple, l'hémorragie. Les enfants qui naissent déjà dès le bas âge avec des troubles de coagulation, ces gens-là sont prédisposés à faire les AVC hémorragiques. Nous avons aussi les tumeurs cérébrales. Ça représente environ 10% des causes des AVC hémorragiques. Nous avons aussi les autres causes. Je vais essayer de les citer en passant. Et c'est là que nous avons les angiopathies amyloïdes, l'hémorragie intraparachimenteuse de l'obélaire, les thrombose veineuse cérébrale, les endocardites infectieuses.
De façon ramassée, docteur, pouvez-vous évoquer ce qui peut constituer les causes des AVC chez les jeunes et ce qui peut être les causes des AVC chez les personnes âgées?
Nous avons chez les jeunes comme cause la dissection des artères cervicales, par exemple. Nous avons des cardiopathies embolisées, les troubles de coagulation. Nous pouvons avoir les maladies de la paroi artérielle, les anévrismes, les hémorragies cérébro-méningées, les anomalies de l'hémostase, comme je le disais bien avant. Nous pouvons avoir aussi les causes acquises comme les hémopathies, l'alcoolisme, l'AVC de Moyamoya chez le sujet très fanocytaire. Nous avons les endocardites infectieuses, les antivitamines K. Maintenant, chez le sujet âgé, nous avons les artéroscléroses, les hématomes profonds, nous avons l'hypertension artérielle, les angiopathies amyloïdes, les hématomes lobaires, les tumeurs cérébrales, les hémorragies intratumorales et aussi les antivitamines K que nous donnons aux malades. Ça peut aussi conduire à des troubles de coagulation et entraîner les AVC. C'est d'une manière résumée, Nani, ce sont les causes que nous avons l'AVC.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, docteur, nous avons plusieurs auditeurs qui mettent en cause l'alimentation. Et Joanne nous dit clairement, est-ce que la mauvaise alimentation peut causer l'AVC?
Bien sûr, l'alimentation a une très grande influence dans la survenue des ABT. Je pense qu'il a voulu savoir quels sont les facteurs de risque de cette pathologie. L'alimentation joue un grand rôle dans la survenue des ABT. Ce qui est vrai, l'alimentation peut ne pas causer directement l'ABT, mais ça peut être un facteur favorisant de l'ABT. De façon qui utilise vraiment les aliments trop riches en cholestérol, par exemple, ils seront confrontés à un problème d'hypercholestérolémie, donc excès de cholestérol. Alors que nous savons que si vous utilisez l'aliment gras riche en cholestérol et comme ça, vous êtes prédisposé à faire l'hypertension artérielle. Et c'est par cette hypertension artérielle que vous pouvez avoir des problèmes d'AVC. Et aussi, comme je l'ai souligné bien avant, les consommateurs du tabac, donc la nicotine, c'est une substance qui a de l'influence sur la paroi vasculaire. Il y a bien sûr plusieurs mécanismes et ça peut aussi conduire à des problèmes d'hypertension et entraîner par la suite des problèmes d'AVC. Et il y a la cocaïne, le cannabis, l'héroïne, les opiacés, les amphétamines, les solvants, tout ça. Vous voyez, toute alimentation pouvant aller jusqu'à entraîner ou avoir une influence jusqu'à causer l'hypertension artérielle, tous ces aliments sont des facteurs favorisants d'ABC et ce sont des aliments qui influent sur cet état de choses. Donc l'alimentation a sa part dans la survenue des ABC, que ce soit hémorragique.
Okay. Alain Moussassa veut se rassurer que l'AVC n'est pas une maladie contagieuse. Qu'avez-vous à lui répondre, docteur?
L'AVC n'est pas contagieuse parce que nous savons que les causes sont identifiées et aussi, en même temps, les mécanismes de survenue de cette pathologie sont connus. Donc, j'insiste et je dis que l'AVC n'est pas contagieuse et jamais il ne le sera. Donc, c'est une maladie neurologique qui résulte de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. Ou en général, quand un vaisseau sanguin éclate, ou il est bloqué par un caillot, et c'est ce qui peut entraîner la survenue de cette pathologie par toute cette souffrance, entraînée par la diminution de l'oxygénation et de l'apport en nutriments au niveau de la zone du cerveau touché, en raison de l'absence de ces deux substrats précités. Ça veut dire l'oxygène et le glucose, donc il y aura de la réduction du flux artériel cérébral, qui est tout à fait responsable d'une souffrance du parenchyme cérébral et donc des mauvais fonctionnements dans les territoires de l'artère occlusive. Donc ce sont ces éléments qui peuvent favoriser la survenue de l'AVC. Et là, il n'y a pas moyen que ce soit une maladie contagieuse. Donc l'AVC, j'insiste et je dis à notre auditeur que c'est une pathologie neurologique qui est connue sur le plan physiopathologique, le mécanisme de survenue, les étiologies, aucun élément n'expliquerait que l'AVC est contagieux.
D'accord. Espoir Koutoumaïni vous demande de lui parler des signes annonciateurs des accidents vasculaires cérébraux.
Les signes annonciateurs, c'est que nous avons premièrement le déficit moteur, comme je l'ai dit, un problème moteur, c'est-à-dire un patient qui a une paralysie. Je voudrais signaler quelque chose. Très souvent, l'AVC, ça surprend, comme je l'ai dit dans la définition, que c'était un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire. Et c'est comme ça que nous l'appelons même accident. Et très souvent, les signes annonciateurs ne sont pas identifiés, mais ils arrivent. Donc, c'est quelque chose qui surprend. Mais seulement, il faudra se baser sur les facteurs qui favorisent cet état de choses. Je l'ai souligné, un patient diabétique, ces patients sont prédisposés. Le patient qui a eu à avoir déjà l'AVC, l'état chimique transitoire, il a connu les déficits neurologiques qui se sont produits dans un contexte trop bref. Ça veut dire le délai de 24 heures, par exemple, avec disparition de toute la curiosité qu'il a eu à connaître, un problème de trouble de langage, un déficit ayant trait à la sensibilité, des céphalées, des vertiges et tout ça, sont les signes qui annoncent que le patient a une prédisposition à faire à la longue ce que nous appelons l'accident vasculaire cérébral. Voilà un peu ce qui est des signes annonciateurs. Donc, il faudra voir quels sont les signes qui accompagnent votre hypertension pour le patient hypertendu. Ils ont des céphalées, des vertiges et consorts. Donc ça, ça peut annoncer la décès.
Alors, docteur, en dehors de ces personnes, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont des personnes à risque de développer les AVC?
D'abord, il faudra dire que tout le monde est concerné par cette pathologie. Vous avez vu que j'ai présenté, il y avait aussi les causes post-traumatiques. Toutes les lésions qui touchent les cerveaux peuvent entraîner ou conduire à l'AVC. Donc, les personnes à risque, ce sont ces personnes qui sont des consommateurs habituels ou fidèles, qui sont ce que je venais de citer. Donc, ayant une addiction, par exemple, à l'alcool, la prise de substances ou d'aliments contenant beaucoup de cholestérol, les patients qui sont diabétiques. En soi, c'est une pathologie qui touche tout le monde. Mais beaucoup plus les personnes à risque, ce sont les personnes âgées, vous voyez. Les personnes qui ont un âge très avancé, à partir de 55, 50, 55 ans, ils peuvent très facilement développer la vie. Dans l'ensemble, c'est une pathologie qui concerne tout le monde, que ce soit les sujets jeunes tout comme les sujets âgés.
Jean-Paul Mpoy, Romain Ngoy, Maître Benjamin Kalumba et Michael Niembo veulent des indications sur ce qu'il faut faire s'ils remarquent des signes annonciateurs d'un AVC chez un patient. Quelle est la conduite à suivre?
Par rapport aux signes annonciateurs, on a juste le prodrome, les signes qui annoncent, et cela, ça peut ou ne pas être l'AVC. Le patient ou l'entourage voit ces éléments avec un déficit neurologique qui est brutal, qui est soudain, qui arrive, un patient qui ne parle plus, un patient qui marchait, qui ne marche plus, un patient qui pensait vous le toucher, ça ne sent plus. Amener le malade à l'hôpital directement sans plus tarder.
Michael Niembo et Maître Benjamin Kalumba insistent sur le cas où il n'y a pas un hôpital dans les environs. Que doivent-ils faire?
C'est une pathologie qui doit être traitée par des personnes spécialisées. C'est à l'hôpital que nous savons quoi faire. Le premier objectif est confirmer ou infirmer le diagnostic d'un AVC, pas l'imagerie cérébrale. Voilà pourquoi il est trop capital d'envoyer directement, dès qu'ils ont vu ces signes de déficit moteur, amener le patient à l'hôpital. Dans un centre de santé, il n'y a pas de soins à donner à la maison en cas d'AVC.
Le conseil est clair. J'espère que Michael Niembo et Maître Benjamin Kalumba l'ont bien entendu. Il faut emmener le patient à l'hôpital. Il n'y a pas de soins à donner à la maison. C'est aussi sur ce conseil que nous mettons un terme à notre entretien. Merci, Dr Prince Kazadi, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous sommes impatients de vous accueillir encore la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce programme qui sera consacré au traitement et aux moyens de prévention des accidents vasculaires cérébraux.
Merci beaucoup, Nanit. Merci à moi de vous remercier pour cette opportunité. Merci à tous nos auditeurs.
C'était l'entretien que nous a accordé le docteur Prince Kazadi, neurologue à l'hôpital du Saint-Contenaire et à la clinique Man Caché à Lubumbashi en République démocratique du Congo. À présent, nous vous proposons de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, similitudes et différences entre le Covid-19, la grippe et le paludisme. Et comment distinguer les symptômes de ces trois maladies durant une co-infection? Un expert nous en dit plus. Et bonne nouvelle, les cas de Covid-19 sont en baisse en Afrique. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Fièvre, maux de tête et fatigue. Est-ce la grippe, le Covid-19 ou le paludisme? Alors que la pandémie de coronavirus se propage dans le monde, les experts disent que le virus peut poser un défi pour le diagnostic précoce de certaines conditions qui ont des symptômes similaires. Ils disent que la similitude de certains symptômes du paludisme et du Covid-19 peut rendre le diagnostic difficile dans les zones endémiques au paludisme. Selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, la grippe et le Covid-19 peuvent ne présenter aucun symptôme ou des symptômes graves tels que maux de gorge, courbatures et difficultés respiratoires. Partons au Mozambique, où des centaines de personnes font la queue dans les points de dépistage du Covid-19 en raison d'une épidémie de grippe. Le nombre de cas de coronavirus a augmenté à Manica depuis le début du mois de janvier. Rosine Munezero raconte.
un virus de la grippe qui provoque des symptômes similaires à ceux du variant Omicron du COVID-19, a conduit des centaines de personnes à consulter des services de santé dans la province de Manica, au Mozambique, depuis la deuxième semaine de décembre, avec un pic effrayant pendant les jours de fête. Toutefois, son nombre a récemment diminué de moitié, car le taux de positivité au COVID-19 a également ralenti.
Le nombre de personnes souffrant de maladies respiratoires et cherchant des soins de santé a diminué. De la même manière, le nombre de cas de COVID-19 a également diminué dans les unités de soins. Cependant, cette réduction ne nous a pas amené au niveau que nous avions avant les vacances.
Les patients atteints de la grippe dans la province ont signalé les mêmes symptômes que ceux d'Omicron, comme une toux sèche et de la fièvre. Les autorités mozambicaines ont reconnu le risque de co-infection et ont demandé aux habitants de renforcer les mesures de prévention pour éviter l'effondrement du système de santé.
Le pic a été atteint durant la semaine du 31 janvier, où nous avons eu un taux de positivité COVID de 58%. La tendance est à la baisse. Cette semaine, le taux de positivité était de 32%.
Nelicio Joachim, un lycéen, a été accusé pendant des semaines par sa famille d'avoir ramené à la maison ce qu'il pensait être le coronavirus, mais qui s'est avéré être le virus de la grippe.
J'étais la deuxième personne à avoir la grippe à la maison. L'autre partie de la famille pensait que j'avais le COVID. Mais Dieu merci, j'avais reçu la deuxième dose du vaccin COVID et les symptômes se sont atténués avec le temps.
Cet autre étudiant universitaire, en revanche, s'est inquiété après avoir eu les symptômes de la grippe. Il a été contrôlé négatif au COVID, mais a vu l'importance de recevoir une deuxième dose du vaccin.
Au départ, je pensais que c'était le COVID, mais je suis allé au centre de santé et ils m'ont fait un test. Le résultat était négatif et je me suis senti soulagé par les résultats. Malgré tout, j'ai décidé de venir me faire vacciner à nouveau.
Malgré la récente réduction du nombre de cas, les autorités sanitaires craignent toujours que sans mesures préventives, le nombre de cas de COVID et de grippe n'augmente. Elles ont également annoncé un rappel vaccinal pour les professionnels de la santé, les personnes âgées et les malades chroniques.
Ce groupe représente un total de 406 personnes que nous devons atteindre. De ce nombre, 4712 sont des travailleurs de la santé, 1750 des malades chroniques et 44 des personnes âgées vivant dans des établissements communautaires pour personnes âgées.
La province mozambicaine de Manica a signalé un total de 3300 cas actifs cumulés de COVID cette semaine, soit 150 cas de plus que la semaine dernière. De ce nombre, 15 personnes sont hospitalisées dans des centres spéciaux pour patients atteints du coronavirus.
Un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé indique que les cas hebdomadaires de COVID-19 en Afrique ont considérablement diminué et que le nombre de décès a chuté pour la première fois depuis le pic de la quatrième vague de la pandémie. La dernière flambée de cas a duré 56 jours. Le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, nous en dit plus.
Pour la première fois depuis le début de la quatrième vague alimentée par Omicron, l'Afrique connaissait une baisse significative des nouveaux cas et une baisse prometteuse des décès signalés. Les cas ont chuté de 20% au cours de la semaine précédente, le 16 janvier, tandis que le nombre de décès a chuté de 8%. La diminution des décès est encore faible et une surveillance supplémentaire est nécessaire pour déterminer si la tendance se maintiendra. Cependant, alors que quatre sous-régions ont signalé une baisse des nouveaux cas, on surveille de près la situation en Afrique du Nord, où les cas ont augmenté de 55%. La Tunisie et le Maroc ont tous deux connu une augmentation exponentielle dépassant l'Afrique du Sud en tant que pays avec le plus de cas sur le continent. Je saisis cette occasion pour souligner que si l'impact de ce dernier pic a été modéré, le continent n'a pas encore renversé la vapeur de cette pandémie. Il n'y a donc pas de place pour la complaisance.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre Santé, Votre Avenir. Nous étions en compagnie du docteur Prince Kazadi, neurologue à l'hôpital de Saint-Conteneur et à la clinique Mankaché à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il a évoqué les causes et les facteurs de risque des AVC. Il a également énuméré les différents types de cette maladie et quelques signaux permettant de reconnaître un accident vasculaire cérébral qui s'annonce. Vous aviez aussi suivi dans la deuxième partie de notre programme Carnet de santé qui vous a été présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph, à la présentation Nani Tetalabi. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé